VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel. On est vendredi 6 mars 2020. Abdelrahman Dia, la présentation, voici les titres. Le Cameroun et le Togo annoncent à leur tour leur premier cas de coronavirus. L'épidémie touche plus de 100 000 personnes dans le monde. Un mort et 5 blessés, c'est le bilan du double attentat visant l'ambassade des États-Unis à Tunis.
L'identité de deux kamikazes sont deux Tunisiens connus par le ministère de l'Intérieur. Même un kamikaze est en prison.
Algérie, Amnesty International demande la libération immédiate des manifestants détenus dans le cadre du Hirak, ces manifestations populaires contre le régime. Au moins 27 personnes ont été tuées dans une attaque à Kaboul, la première du genre depuis l'accord entre les talibans et les États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Des experts en droit constitutionnel d'Afrique de l'Ouest vont se rendre la semaine prochaine en Guinée-Bissau pour chercher une issue à la querelle post-électorale qui se poursuit 2 mois après la présidentielle, alors que l'armée affirme ne s'acoquiner avec aucun des protagonistes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à envoyer au plus vite une mission politique de haut niveau en Guinée-Bissau afin d'aider à résoudre la crise politique. La Guinée a décrété ce vendredi une journée de deuil national après 2 accidents de la route qui ont fait 14 morts, dont 9 membres d'un club de football de 2e division. Le ministère a mis en cause un excès de vitesse du chauffeur du minibus qui a fini sa course sur un tronc d'arbre près de Mamou, dans le centre du pays, alors que les joueurs et l'encadrement se rendaient à un match comptant pour le championnat de 2e division. Et ce matin, une collision entre un taxi et un camion à Doubreka, près de Conakry, a fait 5 morts et un blessé grave, selon le maire de la localité, Elage Alseni Bangoura. Un policier a été tué, 4 autres ainsi qu'un civil blessé dans un double attentat suicide qui a frappé ce vendredi des forces de l'ordre protégeant l'ambassade des États-Unis à Tunis. Il s'agit de la première attaque dans la capitale depuis 8 mois. John Lyndon.
L'explosion a secoué en fin de matinée le quartier des berges du lac à une dizaine de kilomètres du centre-ville où se trouve l'ambassade américaine, protégée en permanence par d'importants barrages de sécurité. La police scientifique a rapidement été dépêchée sur les lieux, survolée par un hélicoptère alors que des policiers sous le choc ont bouclé le périmètre de l'ambassade. Les assaillants, 2 au total, sont arrivés à moto et ont enclenché leur charge explosive à l'approche des policiers en faction sur le rond-point menant à l'ambassade, selon des policiers sur place. Une seule détonation a toutefois été rapportée, laissant supposer qu'un des kamikazes n'est pas parvenu à actionner sa charge. Pour Khalid Ayouni, porte-parole du ministère de l'Intérieur, c'est la patrouille de police qui était visée et non l'ambassade.
Bien sûr, justement, comme je viens de le dire, nous menons tous les jours des opérations de police. Donc, oui, il y a des recherches permanente de ces individus. Les données que nous avons actuellement, donc, ce sont 2 individus qui se sont attaqués à une patrouille de police. Il y a eu une seule détonation donc, qui a explosé.
En juin 2019, un double attentat suicide à Tunis, revendiqué par l'organisation État islamique, avait mis en évidence la résilience des groupes extrémistes dans le pays, bien que la situation sécuritaire se soit nettement améliorée.
Et nous reviendrons sur cet attentat à Tunis en partie magazine. Les autorités sanitaires camerounaises annoncent un premier cas de coronavirus dans le pays. Il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans arrivé à Yaoundé le 24 février. Selon le ministre de la Santé publique, le concerné est actuellement pris en charge à l'hôpital central de Yaoundé. Le point sur place avec Emmanuel Jultap.
Selon le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, professeur Jean-Pierre Fouda, la prise en charge du Français de 58 ans mis en isolement se passe bien. Une équipe médicale camerounaise suit l'évolution de la santé du patient, a-t-il ajouté. Aucune information n'a filtré sur les fréquentations du patient depuis son arrivée au Cameroun le 24 février dernier. Il se trouve dans un bâtiment très isolé du reste de l'hôpital central où l'accès au public est interdit. Ce matin, certains Camerounais pris de panique portaient déjà des masques de protection achetés à l'entrée de l'enceinte hospitalière. hospitalière. Demain, le ministre de la Santé publique va donner une conférence de presse à Yaoundé. Par ailleurs, une dizaine de personnels de l'hôpital central, médecins, infirmiers, agents de sécurité, seront formés sur la gestion du coronavirus. Une trentaine de personnels du même hôpital avaient déjà bénéficié de la même formation. On essaye d'être prêt à réagir en cas de nombre plus élevé de contamination, a déclaré le directeur de cet hôpital à VOA Afrique. De Douala, Malachi Manaouda, le ministre de la Santé publique, a appelé les populations à ne pas céder à la panique. Une cellule de crise a été créée à la présidence de la République ce vendredi, a-t-on appris d'une source officielle sous anonymat. Yaoundé, Emmanuel Jouluntap, VOA Afrique.
Le Togo a également annoncé ce vendredi son premier cas de coronavirus. En conférence de presse ce vendredi, le gouvernement togolais s'est voulu rassurant. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kailoson.
La victime, une Togolaise de 42 ans habitant à Lomé, a séjourné entre le 22 février et le 2 mars au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie et a rentré par voie terrestre par la frontière bénino-togolaise, informe le gouvernement togolais. C'est suite à des malaises avec des symptômes grippaux que la dame s'est rendue à l'hôpital pour une consultation. Comme Isselom Klassou, chef du gouvernement togolais.
Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence ont révélé un résultat positif au coronavirus. La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. À ce jour, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure.
Le gouvernement togolais a appelé la population à ne pas céder à la panique, à respecter les règles d'hygiène et à s'en tenir strictement aux mesures de prévention recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Kailoson, Lomé, VOA Afrique.
De la Mecque à Jérusalem, en passant par l'Iran, la grande prière hebdomadaire des musulmans a été annulée ou n'a pas attiré de larges foules ce vendredi dans les grandes villes du Moyen-Orient en raison de craintes de propagation du nouveau coronavirus. Le point avec Eric Manerekiza.
En Arabie Saoudite, l'esplanade entourant la Kaaba, lieu le plus saint de l'islam situé au cœur de la grande mosquée, a été fermée temporairement pour lutter contre le nouveau coronavirus, une mesure inédite. Le fait que ce soit vide a quelque chose d'effrayant, a indiqué un fidèle. À Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam situé sur l'esplanade des mosquées, dans la vieille ville de Jérusalem, était presque déserte. En Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne a décrété un état d'urgence sanitaire de 30 jours, incluant la fermeture des établissements scolaires et l'interdiction d'accès aux touristes. En Iran, la prière du vendredi a été annulée dans toutes les capitales provinciales, dont la métropole Téhéran. En Irak voisin, dans la ville sainte chiite de Karbala, où se trouve le mausolée de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, la grande prière du vendredi a été annulée par les autorités. À Bethléem, ville palestinienne située à moins de 10 km de Jérusalem, les autorités ont fermé la basilique de la Nativité, une des églises les plus anciennes et les plus connues au monde. Et à Jérusalem, au pied de l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, les autorités ont restreint l'accès au mur des Lamentations, site le plus sacré du judaïsme, particulièrement visité le samedi, jour de Shabbat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement américain se dit prêt à entamer la collecte des ADN de tous les migrants placés en camp de rétention et à les enregistrer dans une base de données de la police fédérale. Le ministère de la Sécurité intérieure avait fait savoir à l'automne qu'il allait travailler sur cette mesure, s'attirant de vives critiques des défenseurs des droits humains et des migrants. Après des tests localisés, le gouvernement est désormais prêt à la généraliser. La mesure s'inscrit, selon le ministère de la Justice, dans le cadre d'une loi adoptée en 2005 qui avait autorisé la création d'un fichier fédéral avec le profil génétique de toutes les personnes arrêtées ou condamnées pour des crimes ainsi que des migrants détenus par les États-Unis. En Afghanistan, au moins 27 personnes ont été tuées dans une attaque contre un rassemblement politique dans l'ouest de Kaboul. Il s'agit de la première du genre dans la localité, dans la capitale depuis l'accord conclu entre les talibans et les États-Unis. Les assaillants ont ouvert le feu depuis un chantier proche de l'événement, selon le ministère de l'Intérieur. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerekiza.
Le Sénat nigérian a donné son accord ce jeudi pour un emprunt de 22,7 milliards de dollars, assurant vouloir relancer des travaux d'infrastructure. Ce montant représente les deux tiers de ses prévisions de budget pour 2020. Le Nigeria est repassé première économie d'Afrique cette semaine devant l'Afrique du Sud qui s'enfonce dans la récession. L'économie américaine a une nouvelle fois donné la preuve de sa solidité en février avec la création de 273 000 nouveaux emplois. Le taux de chômage est tombé à 3,5%, le niveau le plus bas en 50 ans, alors que les analystes s'attendaient à une stabilisation à 3,6%. Washington a également révisé à net hausse les données de décembre, estimant que 273 000 nouveaux emplois avaient également été créés contre 225 000 annoncés initialement. Une gourde chinoise en porcelaine datant de la deuxième partie du XVIIIe siècle, estimée entre 1 et 2 millions d'euros, sera mise aux enchères demain samedi à Bourges, en France, et représente un dragon impérial à 5 gifres à la recherche de la perle sacrée. Les propriétaires sont passés des centaines, peut-être des milliers de fois, devant cet objet sans avoir la moindre idée de sa valeur. Les pièces impériales de la période Qianlong sont particulièrement recherchées. Un bol en porcelaine de la famille Rose s'était ainsi vendu 30,4 millions de dollars en avril 2018 chez Sotheby's à Hong Kong.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Quart de finale, retour en Ligue des champions CAF ce soir.
Oui, l'Espérance de Tunis reçoit le Zamalek d'Égypte avec un déficit à combler après sa défaite 1-3 à l'aller au Caire. Demain, mission compliquée aussi pour le tout-puissant Mazembe qui accueille le Raja Casablanca à Lubumbashi. Les Corbeaux se sont inclinés à l'aller 2-0 à Casablanca. Deux buts à remonter également à Pretoria pour les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui ont perdu à l'aller 2-0 au Caire face à Al Ahly. L'année dernière, le club Kairot a été éliminé par le même Mamelodi à ce stade de la compétition suite à la fameuse défaite à l'aller 5-0 en Afrique du Sud. Pour se qualifier pour les demi-finales, l'Étoile du Sahel doit s'imposer avec au moins 3 buts d'écart après sa défaite 2-0 à Casablanca face au Wydad Athletic Club.
Le complexe Moulay Abdellah, seul stade en lice pour accueillir la finale de la Coupe CAF.
Oui, le Maroc est le seul pays à avoir proposé l'un de ses stades, le complexe Moulay Abdellah, pour la réception de la finale de la Coupe CAF prévue le 24 mai prochain. Pour ce qui est de la finale de la Ligue des champions, la CAF a indiqué que 3 pays ont présenté leur dossier pour accueillir l'événement. Il s'agit de la Tunisie qui a proposé le stade de Rhadès, du Maroc avec le complexe Mohamed V de Rabat et du Cameroun avec le stade Japoma. La CAF décidera du stade hôte le 12 mars et pour rappel, la CAF a décidé en juin dernier que les finales des compétitions interclubs se joueront désormais en match unique.
Les infrastructures des JO 2020 sont prêtes.
Oui, à plus de 4 mois du lancement des Jeux olympiques de Tokyo, les infrastructures permanentes sont prêtes, selon les organisateurs. Le dernier bâtiment en travaux, le centre aquatique, a été terminé fin février. Il a coûté 523 millions de dollars et pourra accueillir 15 000 spectateurs. Cette annonce intervient alors que l'épidémie de COVID-19 a chamboulé le calendrier sportif dans le monde. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a assuré cette semaine qu'un report ou une annulation des Jeux n'ont pas été mentionnés lors d'une réunion de son comité exécutif. L'événement est prévu du 24 juillet au 9 août prochain.
NBA, Toronto gâche le retour de Stephen Curry.
Oui, le meneur des Warriors n'a pas fait de miracle la nuit dernière avec Golden State pour son retour en NBA après 4 mois d'absence à cause d'une fracture à la main. Défaite de Golden State 121 à 113 devant Toronto. Stephen Curry est monté en puissance pendant la rencontre pour finir comme meilleur marqueur de son équipe avec 23 points. Pas suffisant pour renouer avec la victoire pour les Warriors. Par contre, cette victoire permet à Toronto, deuxième de la conférence Est, d'être assuré de disputer les playoffs pour la 7e saison consécutive.
Merci Yacouba.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Retour sur le double attentat suicide qui a coûté la vie à un policier et blessé quatre autres, ainsi qu'un civil devant l'ambassade des États-Unis à Tunis. La Tunisie est sous état d'urgence depuis fin 2015 après les attaques de Sousse et du Bardo ayant fait 84 morts en tout et une attaque suicide contre la garde présidentielle à Tunis dans laquelle 12 agents ont été tués. Ces attaques et celles du 27 juin dernier avaient été revendiquées par le groupe État islamique, mais Acmi a également perpétré des attaques meurtrières cette dernière décennie dans ce pays. Nathalie Barge a joint à Tunis la reporter Amira Mohamed de Radio Mosaïque qui était sur place après l'attentat.
Vers 11h du matin, 11h15 presque, j'ai entendu qu'il y a un attentat auprès de l'ambassade américaine au lac 2. C'est au nord du centre de Tunis, ville. J'ai déplacé sur le lieu. Il y a deux kamikazes à bord d'une moto ont visé une patrouille de sécurité affectée devant l'ambassade des États-Unis et se sont fait exploser. Cinq policiers et une citoyenne ont été blessés, mais après, on a un martyr qui était un policier visé par les deux kamikazes.
Est-ce que c'était la patrouille qui était visée ou l'ambassade des États-Unis?
C'est la patrouille qui est visée. Peut-être qu'ils veulent passer des messages à l'ambassade américaine ou l'ambassade de l'Égypte en Tunisie.
Qu'en est-il de la situation sécuritaire globale,
hein? La guerre contre le terrorisme est toujours, surtout si on prend en considération la situation en Libye, toujours il y a les menaces pour la Tunisie et même l'Algérie et même les autres pays. En Tunisie, surtout les deux dernières années, il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre le terrorisme. Et même en partenariat avec l'USA, la France, l'Allemagne, l'Algérie aussi, il y a des coopérations en ce terme.
Est-ce que cette attaque serait plutôt la signature du groupe État islamique ou plutôt de Acmi?
Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de renseignements, mais ce qui est sûr, c'est que l'identité de deux kamikazes aujourd'hui, ce sont deux Tunisiens connus par le ministère de l'Intérieur. Même un kamikaze a été en prison. Mohamed Slim Znedi et Khoubaib Laka, ce sont deux terroristes tunisiens. Ils ont affiché pour le ministère de l'Intérieur.
Acmi a confirmé récemment le décès de Abou Yad, fondateur d'Ansar al-Sharia. Qu'en est-il de ce groupe exactement?
Bon, mais on ne sait pas, c'est la cinquième fois peut-être qu'ils ont annoncé sa mort. Mais Ansar al-Sharia est transformé en des groupes, des sous-groupes en Libye qui appartient à Daesh. Par exemple, nous en Tunisie, il y a le groupe Jand al-Khilafa qui est installé aux montagnes de Gatri. D'où ces deux kamikazes, on ne sait pas s'il appartient à Ansar al-Sharia ou Jand al-Khilafa ou Daesh ou Al-Qaïda, on ne sait pas jusqu'à maintenant.
C'était la reporter Amira Mohamed de Radio Mosaïque à Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Sénégal a été touché cette semaine par le nouveau coronavirus avec 4 cas confirmés. Une situation qui a poussé les populations à se ruer vers les pharmacies pour s'équiper en masques et produits désinfectants. La plupart des officines privées de Dakar, la capitale, éprouvent du mal à satisfaire cette brusque hausse de la demande. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les produits antiseptiques, tous les gels antiseptiques sont en rupture depuis. On avait les liquides antiseptiques, mais actuellement, il est en rupture. Les masques aussi, c'est en rupture.
Moustapha Cissé, vendeur dans une pharmacie de Dakar, dit que son établissement se trouve dans la même situation que la majorité des officines de la capitale. Deux des éléments les plus demandés, à savoir les produits hydroalcooliques et les masques, sont directement utilisés pour lutter contre la propagation du coronavirus. À Guédiawaï, où le second cas positif de COVID-19 a été prise en charge, les populations ne cachent pas leur inquiétude. Chérif Diallo est sidéré.
Mais je vois que cette situation est alarmante dans la mesure où on se pose des questions quant à la capacité de réaction face à la maladie. Déjà, ça crée une certaine psychose. Mais où est-ce que ça va nous mener? Parce que dès le départ, on est en rupture quand même de stock. Je crois que les autorités devaient quand même avoir des capacités quand même de réaction. C'est un test pour savoir la capacité de réaction de nos infrastructures médicales.
Sur la même lancée, Chérif Sidi Manga estime que le modèle social sénégalais, si inclusif, pourrait entraîner une contamination à grande échelle si les autorités ne trouvent pas rapidement une solution concernant les produits préventifs.
On veut qu'on remette beaucoup de protection, quoi, parce que c'est l'essentiel. Pendant ici au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes et on se fréquente tout le temps, quoi. Une fois que la maladie entre ici, c'est fini, quoi. On peut plus se faire parce que on est trop social ici au Sénégal. On partage tout, on fréquente, on fait tout ensemble, dans l'eau. Alors, il faut se protéger au début, quoi.
En attendant que les pharmacies soient de nouveau approvisionnées en masques et produits hydroalcooliques, Hassan Sey, pharmacien à l'hôpital de Fane, recommande aux populations d'utiliser une solution alternative simple et efficace pour se protéger.
Au-delà des antiseptiques, on peut utiliser l'eau de Javel ou l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool à 70 degrés.
Si les gels et liquides antiseptiques sont une nécessité pour la lutte contre le nouveau coronavirus, le port systématique de masques n'est généralement recommandé que pour les personnes présentant des symptômes. La pénurie de ces produits qui touchent les officines privées semble pour le moment avoir épargné les établissements publics. Ceux-ci disposent encore de stocks de produits hydroalcooliques et de masques, comme l'indique la Formation nationale d'approvisionnement. À Dakar, Céline Abagay pour VOA Afrique.
VOA Afrique célèbre ses 60 ans cette année.
60 ans au service de l'Afrique.
On s'en souvient à partir du lundi 2 mars 2020.
VOA Afrique vous invite à écouter les témoignages des anciens de VOA Afrique.
Suivons ensemble leur parcours, les points marquants et les moments clés de leur carrière.
Retrouvez ces témoignages éloquents tous les jours à partir de 5h30 TU dans Le Monde Aujourd'hui.
Ainsi que sur VOA Afrique et la page Facebook de VOA Afrique.
Dimanche 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Malgré plusieurs avancées en faveur des droits des femmes à travers le monde au cours de ces dernières décennies, les militants et militantes aussi affirment que les progrès ont été lents. Selon les Nations Unies, les femmes continuent d'être sous-évaluées et sous-payées et continuent de subir de multiples formes de violence dans le monde. Jesus Emen Oni s'est penché sur la question et c'est un récit de Dilidico.
La Journée internationale des femmes a pour objectif de célébrer les réalisations économiques, sociales et politiques des femmes. Elle vise également à rappeler qu'il est important de poursuivre un effort mondial en faveur des droits des femmes qui, selon les défenseurs, sont encore bafoués aujourd'hui.
Les droits humains ne seront jamais atteints sans les droits des femmes. En ce 25e anniversaire du programme d'action de Beijing, nous constatons un recul des droits des femmes, mais également des niveaux alarmants de fémicide et des attaques contre les femmes défendant les droits humains.
En 1995, 189 pays ont adopté la déclaration de Beijing, qui mettait en place un programme mondial pour la sécurité et la promotion économique des femmes. Mais plus de deux décennies plus tard, les Nations Unies signalent toujours des taux alarmants de violence, de harcèlement et de discrimination à l'égard des femmes dans le monde. Les experts affirment que cela s'explique par le fait que les femmes sont largement absentes des postes de pouvoir.
Seule une partie de la population prenait des décisions sur ces questions. C'est pourquoi il est important d'avoir des femmes autour de la table. Et vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas sorcier. Nous devons simplement les inviter. Nous devons leur donner des voix.
Un rapport d'ONU Femmes, du Plan International et de l'UNICEF montre qu'il y a eu des avancées importantes pour les femmes et les filles dans le domaine de l'éducation. Mais ce n'est pas suffisant.
Nous examinons la situation dans le domaine de l'éducation, mais aussi les risques face à la violence, l'accès aux nécessaires d'hygiène menstruelle. Que vous regardez cela comme un ensemble, il n'y a vraiment aucun pays au monde qui atteint l'équité à tous ces niveaux.
Selon l'ancien ambassadeur Philip Carter, il faudra de la bonne gouvernance pour résoudre ces problèmes.
Vous ne pouvez pas ignorer 50% de la population et vous attendre à faire des progrès économiques et sociaux.
À l'approche du 8 mars, les organisations œuvrant pour les droits des femmes appellent à redoubler les efforts en faveur de l'égalité des sexes afin de mettre fin aux violences contre les femmes et les filles dans le monde.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
60e anniversaire du service francophone de la Voix de l'Amérique, où une cérémonie commémorative est prévue ce vendredi, ici même au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Et à cette occasion, je vous propose le témoignage de Michelle Joseph, réalisatrice et présentatrice à VOA Afrique.
Au micro, Michelle Joseph, dans le cadre du mois de l'histoire africaine-américaine consacré à la période qu'on appelle Harlem Renaissance.
Il fait partie.
Je suis venue ici en 86 au départ. J'étais en gros une productrice qui regroupait les programmes en français et ensuite je faisais une présentation particulière et puis on envoyait ça à nos affiliés. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je dirais que chaque décennie a été très différente. D'abord c'était radio. Ensuite, la grosse transformation dans les années 2000, début 2000, c'était de passer au numérique avec les bandes magnétiques, etc. On allait en studio, c'était toute une élaboration, un spectacle. Il fallait avoir la musique, les disques. C'était comme une mise en scène. Et tout d'un coup, on se trouve dans le numérique et on fait tout soi-même. Donc cet aspect-là, ça m'a beaucoup manqué. Quand on travaillait sur aujourd'hui l'Afrique centrale, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes au Congo. L'époque où Tshisekedi était opposant. L'équipe de nuit, on l'a appelé très tôt le matin et on a enregistré ce qui venait de se passer. Je crois qu'il y avait eu une bombe ou un attentat sur son domicile et donc on entendait les bruits, les cris, etc. Et donc au montage, après, je vais à mon rédacteur en chef, Idrissa Sidoudia à l'époque, et je lui dis, mais ces sons-là, on peut s'en servir, on peut peut-être ouvrir le programme avec, ce sont de vrais sons. Et c'était extraordinaire, c'était le premier teaser en quelque sorte.
C'est en compagnie de la fameuse chorale du Tabernacle de Brooklyn que nous ouvrons ce spécial gospel.
Je me rappelle un moment très marquant, c'était Ferdinand Ferrella était revenu du Rwanda et il avait fait une tournée dans un orphelinat avec toutes sortes de sons, d'interviews, etc. Il m'a dit, Michel, tiens, je ne sais pas quoi faire avec. Prends ça et essayons de faire un dossier avec ça. Et j'adorais ça. Parfois, on rentre chez soi et on dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux vraiment continuer de voir tout près tout ce qui se passe, que ce soit beau, que ce soit laid, que ce soit dur? C'est un privilège de pouvoir faire partie de cette équipe qui raconte ce qui se passe, qui témoigne de ce qui se passe d'une façon équilibrée. Un vœu pour les 60 ans du service VOA Afrique, c'est de pouvoir continuer cette amitié, de pouvoir continuer ce trajet qu'on a commencé ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés qui ont été créées grâce à VOA Afrique, grâce à la Voix de l'Amérique. Ça doit continuer.
C'est avec Michel Joseph qu'on se quitte. Fin de cette édition, mise en onde par Lionel Gaïma à la console Aiden Outkou, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.